quatrième chronique de La Claque, un abécédaire anticapitaliste. Cette semaine, D comme dette.
En ce joyeux temps des fêtes et de démantèlement débridé de tout ce qui ressemble de près ou de loin à un filet social, au nom évidemment de la prétendue responsabilité fiscale, eh bien aujourd'hui on a pensé justement à parler de la dette. Qu'est-ce que c'est ça? Quelle bibitte que c'est ça, la dette? D'abord, peut-être un peu d'étymologie. Selon le dictionnaire historique de la langue française, le mot « dette » est dérivé du latin « debitum », ce qui est dû, qui est le participe passé du verbe « debere » ou « devoir », qui est lui-même composé du préfixe « de » et du verbe « avere », c'est-à-dire « avoir ». Donc « debere » signifie littéralement « avoir quelque chose en le tenant de quelqu'un ». Comme dans « Simon, tu as quelque chose et je vais l'avoir ». Le nom commun « dette » a donné lieu après ça au Moyen-Âge à la création du mot « endetté » et plus tard à « endettement ». Et beaucoup plus récemment, en 1985, en plein dans l'ère Thatcher-Reagan, l'âge d'or dans le fond du néolibéralisme, on a eu le néologisme « surendetté » et « surendettement ». C'est d'ailleurs pas un hasard là, si on a inventé ce concept-là de surendettement à l'âge d'or du néolibéralisme, parce que c'est évidemment très utile aux idéologues qui souhaitent réduire la taille de l'État par toutes sortes de moyens tordus. Tout ça pour en arriver peut-être à une définition peut-être un peu plus terre-à-terre. Bien, la dette et l'endettement, dans tous les cas, c'est un instrument de contrôle économique, parfois un moyen même d'asservissement. Ça se décline différemment selon que l'endetté, c'est un État ou un particulier, mais c'est surtout un instrument de contrôle. Exactement, par exemple, la meilleure métaphore qu'on peut imaginer, c'est comme un boulet qu'on attache à la cheville des prisonniers. Donc, lorsqu'on contracte une dette, par définition, on se soumet à une obligation qui est d'abord morale, mais qui est aussi juridique. On se met, en bon français, on se met dans la marde. On hypothèque, en quelque sorte, son autonomie financière et par conséquent, son autodétermination en tant que sujet libre de ses actions. C'est aussi un moyen pour les prêteurs de soumettre l'endetté à leur volonté. À l'échelle des États, donc, c'est un moyen d'asservissement qui est employé pour maintenir les États, les gouvernements, les administrations publiques sous le joug des marchés et de les soumettre à la volonté des institutions financières. On parle beaucoup de l'endettement de l'État ces jours-ci, qui serait épouvantable, qui nous ferait pendre la fin du monde au bout du nez, là, qui en fait justifie tous les sacrifices imaginables. Hein, au nom d'un désormais proverbial retour à l'équilibre budgétaire. On nous scie les oreilles avec le retour à l'équilibre budgétaire. Les plans de redressement, hein, nous dit-on, parce qu'il faut évidemment éviter de parler là, d'austérité dans le newspeak libéral, sont, on nous dit, une absolue nécessité. Selon Philippe Couillard, qui, soit dit en passant, a lui-même placé, on le sait, 600 000 $ dans un paradis fiscal là, dans les années 90, ou encore un passage obligé, selon la présidente du Mouvement Desjardins, hein, Monique Leroux, qui, elle, aux dernières nouvelles, gagnait 3,55 millions de $ par année. Soit dit en passant, là, le fameux déficit du Québec est estimé à 1,1 milliard hein, pour l'exercice 2014-2015. Ça, c'est les projections en cours actuellement, pour un revenu de plus de 400 milliards. Alors, on peut se demander s'il y a vraiment péril en la demeure. Mais bon, la plupart des économistes vous diront que oui, qu'il y a effectivement péril en la demeure. Et quoi qu'il en soit, ben, il y a des choix qui sont faits concrètement par le gouvernement, des choix qui sont clairement fondés sur un parti pris idéologique et qui sont guidés par des intérêts économiques. C'est-à-dire qu'on fait payer le déficit à la population, surtout aux plus pauvres, mais on le voit là, de plus en plus à la classe moyenne, pour éviter de faire payer les plus riches et pour faire payer, dans le fond, les institutions du capital, comme par exemple les grosses banques, les 6 plus grosses banques au pays qui ont cumulé un bénéfice net de 33,3 milliards dans la dernière année. C'est donc la dette de l'État, ou plus précisément le risque de voir s'aggraver cette fameuse dette-là, de voir s'approfondir le déficit, ou de voir, en fait, les agences de notation financière nous donner une mauvaise cote de solvabilité qui justifie le massacre à la tronçonneuse auquel préside joyeusement le Parti libéral du Québec actuellement. Dans un rare élan d'honnêteté, notre bon premier ministre Philippe Couillard a récemment admis que ce sont les agences de notation financière qui contrôlent les finances publiques du Québec. Que c'est ça? Bien, c'est des organismes privés indépendants qui sont financés par leurs clients, comme le gouvernement du Québec notamment, pour évaluer la solvabilité des entreprises et des États. c'est-à-dire évaluer leur capacité de rembourser leurs dettes et à éventuellement contracter d'autres emprunts. Alors, les trois plus importantes agences de notation sont Moody's, Standard & Poor's et Fitch. Si ces trois noms que je viens de nommer vous disent quelque chose, c'est parce que c'est des agences qui, ces agences-là ont joué un rôle central dans la crise financière de 2008 en refusant notamment de décoter les produits toxiques qui se sont avérés être à la base du dérapage et de la crise mondiale ou qui s'est mondialisée. Les agences ont aussi précipité la crise de la dette en Grèce en encourageant la spéculation. Mais il ne faudrait pas croire non plus que ce serait bien différent avec un autre parti. Ce qui est fantastique, en fait, avec la démocratie capitaliste, c'est que les exécutants, sont remplaçables. Hein? Les trois gros partis à l'Assemblée nationale, si on fait exception, mettons, de Québec solidaire, dont les orientations économiques sont un peu différentes, sont fermement engagés envers ce processus-là de démantèlement à la néolibérale. Si on dit que les marchés constituent la nouvelle religion hégémonique, mais dans ce cas-ci, il n'y a aucune séparation entre l'État et la religion. Les gouvernements et la classe politique sont purement et simplement les instruments des marchés, les outils volontaires. Là. C'est eux-mêmes, des gens comme Couillard ou comme Coiteux ou les Tao. Ce sont des personnages qui se prêtent à l'exercice et ils le font volontairement. Les citoyens sont tellement désinformés, ce qui était un peu malheureux, qu'ils vont continuer à voter pour le moins pire, ou en ce qui est perçu comme le moins pire d'élection en élection, et mettre au pouvoir des larbins du capital, toujours, qui vont poursuivre l'œuvre de démantèlement. Certains avec plus d'intensité et d'audace que d'autres, mais tous avec la même détermination, ça c'est sûr.
Là, on parle de la dette publique, la dette de l'État, mais la dette, c'est aussi un problème pour les individus, pour les ménages.
Tout à fait. Écoute, d'ailleurs, l'endettement des ménages, on le sait, c'est jamais aussi intense que ce temps-ci de l'année, le temps des fêtes. Joyeux Noël en passant, Simon.
Oui, merci. Bon temps des faillites.
Ben oui. Mais bon, évidemment, c'est pas drôle du tout. Depuis plusieurs années, l'endettement moyen des ménages au Canada fluctue entre 160 et 164. Ça, là, ça veut dire que pour chaque 1 000 de revenus disponibles, le foyer moyen est endetté à hauteur de 1 600. Alors, c'est un problème, là, on s'entend. Il y a quelqu'un quelque part qui bénéficie de ça, mais c'est clairement pas le ménage moyen. La dette moyenne au Canada est de 76 140 et il y a plus de 50 % des Canadiens qui ont une dette de carte de crédit, 43 % ont une dette hypothécaire. Alors, autrement dit, on vit à crédit, on vit au-dessus de nos moyens. En même temps, ce qui est ironique, c'est qu'en même temps qu'on nous dit qu'il faut faire des sacrifices extraordinaires, là, collectivement, pour éponger la dette publique, absolument tout dans le système capitaliste encourage les gens à vivre très largement au-dessus de leurs moyens, à s'endetter. Et évidemment, les institutions financières sont très contentes de donner les moyens aux particuliers de s'endetter jusqu'à ce qu'ils pètent aux frettes. L'endettement, c'est plusieurs choses. C'est pas nécessairement facile à encapsuler, à définir en peu de mots. Mais avant tout, à l'échelle des particuliers, c'est un cercle vicieux, hein, dont il est extrêmement difficile de se sortir. C'est de toute beauté quand on y pense. Dans un premier temps, il y a la publicité, hein, qui est omniprésente, qui nous incite dès le plus jeune âge, hein, tout le monde, à consommer et à surconsommer. Donc c'est un comportement qui est profitable au système capitaliste, mais surtout aux sociétés de crédit, hein, aux institutions financières aussi, qui offrent toutes sortes de produits plus ou moins toxiques pour retenir les travailleurs et travailleuses dans les mailles de ce système-là d'endettement de crédit. Alors, cette pression à consommer-là, justement, elle entraîne l'endettement. L'endettement maintient les travailleurs et travailleuses dans le cycle du travail et des loisirs. Leur dette les attache littéralement en tant qu'agents producteurs, consommateurs, voteurs au marché du travail. Le travail devient donc central. C'est ça qui est insidieux. Ça devient l'objet même de la vie. La vie tourne autour du travail. Il devient même impossible de penser sa vie en dehors du travail, en dehors du cycle travail-consommation. Et en retour, l'impératif du travail donne le sentiment de mériter des cossins, tu sais, des services qu'offre le marché, comme les milliards de services et de biens qui sont à notre disposition, qui sont peut-être certes pas essentiel, mais qui rend du moins la vie moins dure, qui contribue à améliorer en quelque sorte les conditions matérielles ou à procurer un certain confort à soi et à sa famille. Et évidemment, ben, le cercle vicieux reprend de plus belle et puis on est captif de ça.
Donc, on est captif de ça. Comme particulier, ça nous enchaîne un capitalisme débridé. On est captif de ça au niveau public parce que ça enchaîne l'État aux institutions financières et aux agences de crédit. Comment est-ce qu'on brise ces chaînes-là?
J'en ai pas de solution magique. La seule option à long terme, ce que prônent les anticapitalistes, forcément, par définition, c'est de sortir du capitalisme, de démanteler les institutions, la mécanique capitaliste. On parle ici d'un bouleversement radical, sans dessus-dessous, des valeurs de la société occidentale. Mais on n'est pas encore là. En attendant, je pense qu'au niveau systémique, je pense que c'est toute l'idée de la solidarité sociale qu'il faut revisiter. Au Québec, on sait qu'il se prépare actuellement des belles mobilisations pour le printemps 2015. Le gouvernement, de jour en jour, de semaine en semaine, se magasine des coups de pied au cul, c'est important. Il se magasine littéralement une crise. Alors, je pense que c'est important de faire sa part là-dedans. Il faut faire comprendre aux politiciens, autrement que par les urnes, là, parce que ça marche manifestement pas, qu'on est tanné que les marchés financiers, que les banques, que les agences de notation, que aussi les compagnies pétrolières et gazières déterminent le cours de nos destinées. Puis, au niveau individuel, bien, je pense que ça prend l'éducation, ça prend de l'entraide. Puis, il faut faire des efforts pour sortir du cycle travail-consommation.
C'est émouvant, hein?
Très émouvant.
Donc, c'était l'abécédaire anticapitaliste de la claque pour ce mois de décembre 2014. On passe la dette au cash.